Bonjour Fabrice Drouel et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, une histoire de l'islam et des musulmans en France. Égyptiens, on vous dira que je viens pour détruire votre religion, c'est un mensonge. Répondez que je respecte Dieu, son prophète et le glorieux Coran. Bonaparte en 1798. D'histoire. Il y a près de 13 siècles, après avoir traversé les Pyrénées, une armée de musulmans venus d'Espagne traversait l'Aquitaine en direction de Tours. Le 25 octobre 732, après avoir saccagé et pillé plusieurs villes, les cavaliers berbères de l'émir Abdelrahman étaient arrêtés au nord de Poitiers par l'armée franque de Charles Martel. Cette bataille, au cours de laquelle Abdelrahman fut tué, arrêtait l'expansion d'une religion qui, en quelques années à peine, s'était étendue des rives de l'Indus jusqu'au pied des Pyrénées. C'était aussi le début de la très longue histoire de l'islam et des musulmans en France. Une histoire qui commençait à la fin du 8e siècle, entre deux religions et deux peuples, qui ne savaient rien les uns des autres, lorsqu'après Charles Martel et Pépin le Bref, Charlemagne reprenait le combat contre ceux qu'on appelait alors les Sarrasins.
Après tout, que sais-je d'eux ? Rien. Mon grand-père les a repoussés à Poitiers et nul ne sait rien d'eux.
Les Arabes se sont emparés des trois quarts de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse, avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Cette explosion les a conduits des déserts d'Arabie jusque vers l'Afghanistan à l'est et jusque vers l'Espagne à l'ouest. Et tout cela en moins d'un siècle. Il est vrai surtout que les Arabes avaient l'habitude des razzias et possédaient une cavalerie légère excellente, comme votre majesté a pu le constater en Espagne.
Ces Sarrasins que j'ai vus en Espagne ne m'ont jamais donné l'impression d'être autre chose que des barbares. Je le reconnais, un seul talent, la perfidie.
Ils pensent la même chose des Francs, majesté.
Mohamed Harkoun, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de diriger un travail important, très important, qui vient d'être publié chez Albin Michel, une histoire de l'islam et des musulmans en France, un sujet sur lequel on a écrit beaucoup de livres, mais sans remonter aussi loin que vous le faites, et en faisant commencer, vous, cette histoire dès le Moyen-Âge. Qu'est-ce que le Moyen-Âge peut nous faire comprendre des rapports qui existent aujourd'hui entre la France et l'islam, 1300 ans après la bataille de Poitiers?
Eh bien, je répondrai que nous vivons toujours dans les mêmes représentations réciproques de l'islam vis-à-vis des Français, de la France et de l'Europe en général, et de ceci vis-à-vis de l'islam.
Ce que pensait Charlemagne, je l'entends, vous êtes extrait des barbares, et il pense la même chose que
et
nous.
Et tous les conflits que nous vivons reposent sur des représentations imaginaires, beaucoup plus que sur une connaissance historique contrôlée, bien qu'il existe, comme vous l'avez dit, un grand nombre de travaux, évidemment, de part et d'autre. Mais c'est la première fois qu'on remonte si loin et surtout qu'on le fait avec un regard sur l'ensemble des événements où la France et l'islam sont intimement impliqués et donc ont des échanges interactifs, je dirais.
Jean Fleury, vous avez beaucoup participé, vous aussi, à ce livre. Vous êtes un spécialiste du Moyen-Âge. Vous êtes d'accord à ce que vient de dire Mohamed Harkoun?
Oui, tout à fait.
Cette nécessité de remonter très loin, ça se fait pour beaucoup de sujets en histoire, mais là, vraiment, ça paraît particulièrement
vrai. Oui, il fallait, je crois, remonter aux origines des rapports entre l'islam et la chrétienté, disons, à l'Occident, pour deux raisons principales. La première est une question de mentalité. La mentalité médiévale est assez proche, finalement, de la mentalité qui existe dans beaucoup de pays musulmans actuels. C'est-à-dire une mentalité dans laquelle la religion est omniprésente, dans laquelle la religion exerce une pression considérable sur les esprits, dans laquelle la notion d'individu existe peu, voire pas du tout. C'est la communauté qui décide pour l'ensemble. Vous voyez, tous ces facteurs de mentalité médiévale occidentale, se retrouve actuellement dans le monde musulman. Cela, déjà un premier point. Deuxième point, si vous permettez, pour aller dans le sens qu'a indiqué Mohamed Harkoun, c'est que la plupart des stéréotypes que l'on a actuellement sur les musulmans viennent précisément du Moyen-Âge. Ces stéréotypes peuvent se ramener grosso modo à trois. Les musulmans sont considérés comme luxurieux, comme idolâtres et comme violents. Ces trois stéréotypes-là vont marquer durablement les mentalités occidentales vis-à-vis de l'islam.
Mais il y a quand même, dans la religion, le djihad. Il y a la guerre sainte, et dès cette époque-là, la bataille de Poitiers, on disait, ben voilà, c'est effectivement un peuple violent, une religion violente, alors que on pense souvent que la religion chrétienne, c'était vrai à ses débuts d'ailleurs, déteste la violence et n'aime pas la guerre, elle est contre la guerre. Elle va se rallier petit à petit, elle aussi, à cette idée de guerre sainte et de guerre juste, Mohamed Harkoun.
Absolument, et justement, un des points forts du livre, grâce en particulier à la contribution sur les croisades de M. Flory, pour la première fois, on met en vis-à-vis le concept de jihad en arabe et le concept de guerre juste, déjà élaboré par saint Augustin au IVe siècle après Jésus-Christ, et qui va devenir, pendant justement les heurts entre islam et chrétienté, à partir du dixième siècle, ce que le christianisme va appeler la guerre sainte. Mais de l'autre côté, le djihad, c'est aussi une guerre qui est vécue comme sainte. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est le régime de vérité religieuse. Chaque protagoniste dit « ma religion est la seule religion vraie ». Et on a élaboré des théologies de part et d'autre pour établir cette position très forte qui est d'ailleurs toujours valide dans les perceptions que nous avons chaque fois que il y a ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien, judéo, etc. Cette référence à la religion vraie qui implique des religions fausses va peser sur toute l'histoire des trois religions et l'histoire, bien sûr, des rapports entre la France et l'islam en particulier.
Est-il vrai, curé, que le pape lui-même protège les croisés?
C'est tout à fait certain.
Moi, Étienne de Cloyes, je jure sur le sang du Christ de prendre la croix et de n'avoir de cesse que j'aurai délivré Jérusalem. La mer s'ouvrira devant nous, comme la mer Rouge s'est ouverte devant Moïse. À genoux!
Ainsi que le souhaitait Godefroy, tu pars aujourd'hui pour la Terre Sainte. Mon navire appareillera dans quelques jours. La traversée est périlleuse. Si Dieu te prend dans sa main, tu arriveras sain et sauf au bout de ton voyage. Aie foi en lui. Tu auras sa bénédiction.
Alors, les croisades, vous en parlez longuement dans ce livre, Jean Flory, les croisades qui ont marqué très longtemps, qui marquent encore aujourd'hui les rapports entre l'islam et la France en particulier, puisque c'est de France qu'est partie la première croisade.
Oui. La croisade, il faut, pour bien la comprendre, il faut tout de même le repasser dans le cadre de la guerre sainte. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le christianisme originel est pacifiste. Et alors que l'islam n'a pas ce problème vis-à-vis de la guerre. Mahomet a participé à la guerre dès l'origine, et il n'éprouve aucun complexe à l'égard de la guerre. En revanche, dans le christianisme, le pacifisme originel de Jésus imposait au début une attitude pacifiste.
On en parlait hier, il n'est pas question pour un chrétien de se battre ni de porter les armes. Oui.
Absolument, ils sont même exclus. Celui qui porte les armes doit être envoyé, doit être excommunié. Évidemment, dès l'instant où l'Empire romain se convertit au christianisme, ou tout au moins l'empereur se convertit, alors il faut défendre l'Empire. Donc, Saint-Augustin élabore la notion de guerre juste. Il est légitime de se défendre lorsqu'on est attaqué. Mais il y a loin de cette notion de guerre juste, qui est une tolérance, au fond, une exception, à la notion de guerre sainte, qui est la notion selon laquelle faire la guerre et tuer l'adversaire et être tué, vous confère les palmes du martyr. Et là, c'est une véritable révolution dans la doctrine chrétienne. Donc la guerre sainte, c'est vraiment l'idée selon laquelle on peut gagner le paradis en étant tués au combat, ce qui est absolument le contraire des martyrs des premiers temps du christianisme. Alors la croisade, puisque vous l'évoquez, la croisade c'est la guerre saintissime, si j'ose dire, parce que à tous les, pour les chrétiens de l'époque, j'entends, hein, parce que tous les éléments des guerres saintes se trouvent réunis là, plus quantité d'autres qui n'y étaient pas, hein, à savoir la notion de pénitence que le pape et disons accorde à ceux qui vont guerroyer en Terre Sainte, comme dans un pèlerinage, la notion de libération de Jérusalem, le Saint-Sépulcre. Il ne faut pas oublier que Jérusalem, c'est le premier lieu saint de la chrétienté, absolument comparable à la Mecque pour les musulmans. Vous voyez, donc le fait que les musulmans considérés comme païens, parce qu'au Moyen-Âge on les considère comme païens, c'est pas, on les assimile, que donc le lieu saint par excellence est entre les mains des infidèles, conduit évidemment à une sacralisation énorme de la notion de croisade.
Alors dans cette affaire, puisque le sujet de votre livre c'est la France et l'islam, ou l'islam, les musulmans et la France, eh bien c'est vrai que la France, là-dedans, est quand même plus concernée que les autres. Elle a participé aux 8 croisades. La première a été prêchée par un pape français, Urbain II, à Clermont. Elle concerne des chevaliers français, Godefroy de Bouillon notamment. Cela dit, je lis dans ce livre aussi que ce n'est pas une guerre contre l'islam.
Non, c'est pas une guerre contre l'islam, parce que l'islam, en tant que religion, j'entends, parce qu'ils ignoraient, d'une manière presque total, ce qu'était l'islam en tant que religion. À tel point que Guibert de Nogent, par exemple, qui est un des esprits critiques les plus avertis de l'époque, dit que contrairement à l'opinion populaire, les musulmans n'adorent pas Mahomet. Enfin, ils le considèrent simplement comme un homme saint, un homme juste qui leur a apporté des lois justes. Ce qui est bien la preuve qu'à l'époque, la mentalité populaire considérait, comme j'ai dit tout à l'heure, les musulmans comme idolâtres, parce qu'on voulait les assimiler aux païens, ce qui permet de les diaboliser plus facilement, luxurieux, parce que la religion de Mahomet, disons le comportement sexuel de Mahomet pour les chrétiens de l'époque était absolument scandaleux, puisqu'on prêchait la virginité et l'abstinence, et violent, parce que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le christianisme primitif répugnait à l'idée de violence. Et on possède un texte tout à fait remarquable des années 640, donc très peu de temps après la première conquête musulmane, qui dit que c'est un juif converti qui parle. Et il se demande si le prophète des Agarènes, c'est-à-dire des Arabes, ne serait pas le Messie que les Juifs attendent. Alors on envoie quelqu'un pour vérifier, et ce quelqu'un revient dire non, c'est pas possible, parce qu'il vient en armes. Jamais un prophète n'est venu en armes.
Il faut rappeler que c'est peut-être ça qui a marqué très durablement, et peut-être plus encore dans les pays musulmans qu'en France, les rapports entre l'islam et la France, justement, c'est la violence, notamment de la première croisade. La prise de Jérusalem s'est faite dans un bain de sang, Jean-Claude.
Oui, je vais peut-être apporter un bémol, non pas pour nier le bain de sang, il est réel, mais les chroniques qui les rapportent veulent faire de l'expulsion des musulmans de Terre Sainte, et en particulier du Saint-Sépulcre, un acte de purification. Et ils représentent ce massacre qui a eu lieu, incontestablement, mais qui n'a pas été aussi général qu'on veut bien le dire, ne serait-ce que par le fait que tous disent que ce sont les musulmans qui ont enterré les musulmans. Donc il en restait quand même. Enfin bon, c'est une horreur, bien entendu. Mais ils ont voulu représenter cette purification sous un angle religieux, donc en reprenant des termes de l'Apocalypse. Et c'est pour cela qu'ils ont insisté sur le sang qui jaillit, etc.
Il y a une diabolisation aussi des musulmans, des païens. Alors, autre événement après les croisades, très important dans les rapports entre l'islam et la France, et notamment l'Occident chrétien, comme on l'appelait, c'est l'arrivée de, non plus d'Arabes cette fois-ci, mais toujours d'un musulman qui allait arriver jusqu'aux portes de Vienne au XVIe siècle.
Le grand, le tout-puissant, le noble, l'invincible, le magnifique. Soliman le magnifique avance en ce moment avec une puissante armée grâce à laquelle il portera dans le monde la gloire du prophète. Dans son infinie miséricorde ne veut pas vous détruire. Il demande simplement que tu lui remettes les clés de la forteresse.
La lumière resplendira sur la terre pour la gloire éternelle de l'Empire et de...
Allah, Allahu Akbar.
Le chant des janissaires turcs, je ne sais pas s'il existait à l'époque justement où les Turcs, une espèce de croisade à l'envers, sont remontés vers le nord, ont conquis une partie de l'Europe, ou en tout cas des Balkans. Alors là, cette fois-ci, Mohamed Harkoun, il ne s'agit plus de conquêtes arabes, mais de conquêtes turques, mais c'est toujours l'islam. Et la grande différence, c'est que cette fois-ci, ça ne concerne pas tellement les rapports entre la France et l'islam, car à cette époque-là, et ça a scandalisé d'ailleurs beaucoup de chrétiens dans le monde, la France était l'alliée de Soliman le Magnifique.
Mais exactement. Alors, je voudrais souligner un fait important pour ce qui a été dit au sujet des croisades, parce que ça continue. Pendant les croisades, ça commence au 11e siècle, l'islam, le monde musulman, au point de vue culturel, scientifique, intellectuel, était infiniment plus avancé que ne l'était l'Europe chrétienne d'alors. Et tout cela a été gommé pendant les croisades, et on a retenu ce que M. Fleury a... Ça, c'est un point important du livre, parce que il faut avoir toujours sous le regard de l'historien les deux aspects. Il y a eu l'aspect culturel, scientifique, intellectuel, qui a traversé toute la Méditerranée, du 7e siècle jusqu'au 13e siècle, en langue arabe. La langue arabe était la langue de culture et de la connaissance pour l'ensemble de... Ça, c'est un point important. Alors, quand Suleyman le Magnifique arrive justement dans l'espace méditerranéen, parce que l'Empire ottoman, justement, c'est tout l'espace méditerranéen, de l'Irak jusqu'à l'Algérie. Et en plus, comme vous l'avez signalé, l'Europe de l'Est... jusqu'à la Yougoslavie qui nous a laissé le drame qu'on a vécu, la Bosnie, etc. Et donc là, c'est encore un moment fort qui signale un décalage sur le plan politique et militaire, beaucoup plus que sur le plan intellectuel, parce que sur le plan intellectuel et culturel, l'islam commence à régresser avec l'arrivée des Turcs, le côté politique et militaire... Et aussi,
mais d'ailleurs, François Ier de son côté s'allie avec Soliman, non pas parce qu'il est devenu musulman, mais c'est tout simplement contre Charles Quint.
Exactement. Hein, et aussi l'État ottoman. Donc, il faut regarder les décalages toujours pour comprendre ce qui s'est passé et ne pas avoir les yeux rivés uniquement sur l'islam, parce que nous sommes en train de tomber dans la faute générale en disant l'islam.
Pas avec vous.
L'islam. Et il faut regarder les enjeux de cette histoire et les enjeux des décalages historiques.
De l'islam. Alors, absolument. Ce qui se passe, c'est que cette alliance va, avec les Turcs, va durer assez longtemps, sous la monarchie française, jusqu'au siècle des Lumières. On reçoit les ambassades de Turquie, enfin de l'Empire ottoman, fastueusement. Louis XIV fait des fêtes immenses pour recevoir les ambassadeurs. Il y a même des, si on peut les appeler comme ça, les premiers immigrés, puisque je lis dans votre livre qu'il y a eu 30 000 soldats turcs qui ont absolument été stationnés à Toulon.
Alliance politique qui est purement politique, parce que Charles Quint d'ailleurs fait une sale propagande à François Ier en disant il a trahi la chrétienté, il est allé... Vous voyez la représentation toujours de la religion fausse et de la religion païenne qui n'a aucun titre à être admise.
Oui, mais elle est réciproque, Mohamed Harkoun.
Je le signale toujours. C'est une exclusion réciproque. Ouais. Mais il faut comprendre que cette exclusion est théorisée par l'effort théologique. La théologie s'occupe de la théorisation, c'est-à-dire de la rationalisation de la foi. Et des deux côtés, on le fait. Cette réciprocité qui doit éclairer notre histoire aujourd'hui, parce qu'on continue encore à vivre dans l'exclusion sans que nous puissions rétablir des équilibres et lire les décalages qui nous séparent.
Alors, il y a une chose intéressante, c'est que ces décalages, comme ils s'amenuisent au siècle des Lumières, parce qu'on voit beaucoup les Turcs, les ambassadeurs, ils fascinent les écrivains, qui disent d'ailleurs, pour certains d'entre eux, du mal de l'islam, je pense à Molière, qu'il s'agisse au contraire de gens qui en disent du bien, ou qui s'en servent, c'est Montesquieu avec ses lettres persanes qui se servent justement de l'islam, de la visite d'un persan pour montrer tous les défauts de notre propre civilisation, Mohamed Harkoun.
Ce qui veut dire qu'il y a des enjeux, justement, de culture et de civilisation dans ces conflits, à l'intérieur même de ces conflits, et véhiculés par ces conflits, parallèlement. Par exemple, Antoine Galland traduit Les Mille et Une Nuits en 1705. Les Mille et Une Nuits, c'est un chef-d'œuvre universel qui intéresse l'imaginaire humain. Alors, c'est un grand événement littéraire.
Alors, on s'y intéresse, bien sûr, et quelqu'un également va s'y intéresser à la fin de la Révolution française, en débarquant en Égypte en 1798, c'est Bonaparte.
Général Menou, 22e demi-brigade légère, 13e et 69e de bataille. Mon général Kléber, 2e demi-brigade d'infanterie au complet, 25e, 15e et général...
Vous par les plus grands de tous les temps. César, Alexandre et surtout notre grand Bonaparte.
Le général Dosset sortira dès ce soir sur le Caire.
Et Alexandrie? Avant midi, nous y serons.
Faites battre le ralliement! Mais il est fou!
Ils disent respecter l'islam et ils le frappent en plein cœur.
Alors l'arrivée de Bonaparte en Égypte en 1798, vous, on le voit dans votre livre, ce n'est pas une nouvelle croisade contre l'islam. On entend même, je l'ai lu au tout début d'émission, Napoléon Bonaparte chanter les louanges de l'islam, rassurer. Il vient officiellement pour libérer les Égyptiens des Turcs. Mais alors, il y a aussi une entreprise culturelle, il y a une entreprise politique.
Oui, il a été accompagné par une armée de savants.
Alors, effectivement,
ça,
là encore, la culture...
Moment, c'est un grand moment parce que la modernité... La modernité qui vient de naître et qui est en train de se répandre justement dans l'espace méditerranéen, c'est cette modernité qui entre en Égypte, dans une Égypte qui a maintenant subi justement une régression de la culture et de la pensée dans tout l'islam. Et lorsqu'on arrive, les Français arrivent là, ils voient une société qui n'est plus du tout celle de l'islam classique, de l'islam du dixième siècle. Et ça va être la même chose en Algérie, en Tunisie, etc.
Jean-Fleury?
Oui, je voulais ajouter que Bonaparte, évidemment, est un opportuniste, incontestablement. Mmh. Mais c'est aussi un héritier du siècle des Lumières.
Exactement.
Et il a encore, il est l'héritier de cette notion selon laquelle la religion n'est pas toute puissante, selon laquelle l'esprit critique doit exister, l'individu doit avoir la liberté de conscience, la liberté d'examen. Et tout ça, ce sont des phénomènes tout à fait nouveaux pour l'Europe, d'une part, et nouveau plus encore pour n'importe quelle religion autre que le christianisme qui a fait cette révolution.
Alors, 30 ans après Bonaparte, c'est dans un tout autre esprit que se produit une autre expédition en 1830, l'arrivée d'une armée française en Algérie et le début d'une très longue guerre de 17 ans qui va aboutir à sa colonisation après l'abdication d'Abdelkader.
Ouvrez le mât !
أنا عبد القادر ابن مهدي الدين مجاهد في سبيل الإسلام.
Moi, Abdelkader, combattant au nom de l'islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, mon étoile s'est éteinte dans le ciel d'Afrique. Allah le Tout-Puissant ne m'a pas accordé la victoire. Il a voulu que les Français s'emparent de ces terres et j'obéis à sa volonté.
Dieu est grand. Les ennemis d'hier peuvent être les amis de demain, s'ils savent garder le cœur pur.
Alors là, c'est le début d'une longue guerre, en tout cas d'une longue colonisation, Mohamed Harkoun, qui va même se prolonger dans toute l'Afrique du Nord, en terre d'islam, en Tunisie et au Maroc. Et elle, alors en revanche, elle a évidemment bouleversé les rapports entre la France et l'islam.
Absolument, absolument. Mais là aussi, il faut bien voir historiquement que c'est l'Europe. L'Europe moderne est le début de l'expansion outre-mer de l'Angleterre, de la France, de la Hollande, etc. C'est donc l'Europe moderne cette fois-ci qui va aller dans l'outre-mer en général et pour la Méditerranée, évidemment, l'Afrique du Nord. Et la conquête de l'Algérie, c'est le premier acte qui souligne ce que les historiens, notre cher Malaisac a appelé que être au chevet de veiller au chevet de l'homme malade. L'homme malade, c'est l'Empire ottoman.
Oui, parce on venait en libérateur entre guillemets pour libérer les Algériens.
Non,
les Algériens entre guillemets, j'ai bien dit,
oui,
de la Turquie
en conquérant.
Mohamed Arkoun, on le voit bien en vous lisant, c'est que initialement, au tout début, hein, il s'agit d'une entreprise politique. Louis-Philippe veut restaurer son règne. Hein. Il pense pas à coloniser. On a même vu un Napoléon III évoquer un grand royaume arabe. Même pas du tout une guerre sainte là. Il ne s'agit pas de supprimer l'islam ou de se battre contre lui. Et puis ça deviendra effectivement une entreprise de colonisation.
Oui, parce qu'il y a tout le départ du capitalisme, les bourgeois conquérants, etc., du côté européen, et de l'autre côté, des sociétés extrêmement affaiblies. Sur tous les plans de l'existence historique des sociétés, le sud de la Méditerranée, les sociétés musulmanes ont été affaiblies, pas du jour au lendemain, mais c'est un processus historique long à décrire, qui a commencé au XIIIe, XIVe siècle. Malgré l'intermède ottoman dont nous avons parlé, et à partir du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman lui-même commence à donner des signes de faiblesse et de recul sur le plan surtout intellectuel et culturel, et encore plus scientifique. Et donc le décalage cette fois-ci est totalement du côté de l'islam qui ne suit plus l'histoire, qui n'est plus dans l'histoire et qui est donc à la merci des bourgeois conquérants.
Mais en Algérie, là, il ne s'agissait pas d'entreprise contre l'islam. Est-ce que ça n'a pas quand même beaucoup compté dans la mesure où le statut, au fond, des Algériens, qui sont dans leur immense majorité musulmans, était un peu bafoué. Ils n'ont jamais été, ou très peu d'entre eux, étaient des citoyens français. En revanche, on accorde, par exemple, la citoyenneté française aux Juifs. Et est-ce que c'est pas en ça que cet aspect religieux, au fond, de la colonisation...
Il y a un chapitre qui manque dans ce gros livre, c'est l'histoire intellectuelle de la France. Intellectuelle après la modernité et après la révolution, l'histoire intellectuelle qui a été complètement inconséquente avec tous les enseignements de la modernité, puisque quand on voit ce qui s'est fait, le déroulement de la colonisation, on voit une trahison perpétuelle et presque radicale et systématique des enseignements et des lumières que la France était censée apporter et diffuser outre-mer.
Alors nous en parlerons justement demain, puisque nous évoquerons le 20e siècle. Je rappelle tous les deux, Mohamed Arkoun et Jean Fleury, que vous êtes deux des auteurs d'un ouvrage très complet, Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours, et qui vient de paraître chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'an 800 au temps de Charlemagne en DVD chez Arte Vidéo, Adieu Bonaparte de Youssef Chahine en DVD chez LCJ Éditions, Soliman le Magnifique de Mario Tota, La Croisade des Enfants de Serge Moati et L'Algérie des Chimères de François Luciani, disponible en DVD chez Warner. Tout de suite, la suite de notre jeu qui pendant toute la semaine vous permet, vous le savez, de gagner un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel, Éphéméris, accompagné d'un CD-ROM. Il vous suffit de répondre à la question du jour. Le 26 octobre 1967, le Shah d'Iran se couronne lui-même lors d'une cérémonie à Téhéran. Quel est son véritable nom ? Mohammad Reza Pahlavi, Mohammad Reza Kashani ou Mohammad Mossadegh. Je répète, Mohammad Reza Pahlavi, Mohammad Reza Kashani ou Mohammad Mossadegh. Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute et donnez votre réponse en suivant les instructions. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa et Ludovic Asselot, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.